Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main Vous Fasse. Comment faire face à l'imprévu? Mon coiffeur préféré qui déménage à l'autre bout du pays, mon beau-frère qui débarque à l'improviste un samedi soir à 21h, un spectacle annulé à la dernière minute, un ami qui vous pose un lapin, sans compter les événements inattendus plus graves qui bousculent notre quotidien, la mort prématurée d'un proche, un licenciement économique, un déménagement contraint, une crise sanitaire que personne n'avait prévue. L'imprévu peut être synonyme donc de stress et d'inquiétude. Nul ne peut éviter les situations fortuites qui nous prennent par surprise, mais les surprises peuvent être délectables, pimenter et mettre du relief à nos routines, nous contraindre à sortir de ces zones de confort qui peuvent nous engourdir. Bref, accepter de vivre avec l'imprévu, c'est illuminer notre vie quotidienne. Nos invités vous délivreront des réflexions et des conseils avisés pour faire de l'inattendu un allié pour la vie. Et vous racontez-nous les événements imprévisibles qui ont changé le cours de votre existence et comment avez-vous fait face à cet imprévu? 01 45 24 7000. Sans oublier de nous laisser une note vocale sur l'appli France Inter. Bonjour Marie-Laure Sonnenschein.
Bonjour Ali.
Chef de service à Femme Actuelle, belle année à vous. Alors, vous commencez l'année 2022 avec un nouveau stock de questions pertinentes.
Et puis je pense que la fameuse zone de confort va en prendre pour son grade aujourd'hui.
Bonjour Christophe André.
Bonjour Ali.
Je vous souhaite le meilleur cette année. Quel est le menu de vos choses vues?
Eh bien, nous parlerons des trois vertus de l'inattendu et aussi des délices de l'attente.
Bienvenue dans Grand Main Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien Vous Fasse.
En fait, s'il n'y avait aucune incertitude, il n'y aurait aucune liberté. Si tout était certain,
tout
serait prévisible. Ouais. Et on a du mal à vivre l'incertitude, évidemment, parce qu'on voudrait être rassuré. Mais ça irait mieux si on se disait que l'incertitude, c'est la condition normale, et que de temps en temps, on a des petites certitudes. Mais nous, on a été élevés dans l'autre sens. Comme si l'essentiel était certain, et qu'il allait avoir des petits moments d'incertitude. Donc c'est plus facile de comprendre la relation entre incertitude et liberté, lorsqu'on comprend que l'élément dans lequel nous habitons, c'est l'incertitude.
Le philosophe Charles Pépin sur France Bleu en mars 2021. Bonjour Cécile Guéret.
Bonjour.
Vous êtes psychopraticienne en gestalt-thérapie à Tours, auteur du blog La Psy Buissonnière, et vous avez publié il y a quelques temps « Aimer, c'est prendre le risque de la surprise » chez Albin Michel, un éloge de l'inattendu dans la rencontre amoureuse. Bonjour Philippe Gabillier.
Bonjour.
Vous êtes professeur de psychologie et de prospective à l'ESCP Business School. Alors après l'éloge de l'optimisme qui a connu un grand succès, vous publiez un éloge de l'inattendu, l'art de se laisser surprendre aux éditions Saint-Simon. Que pensez-vous, tiens, de ces propos de Charles Pépin?
Je pense que Charles, sur ce plan-là, a raison, à condition quand même de bien comprendre que l'incertitude, c'est une idée, quoi. C'est un état d'esprit. Je trouve que ça manque de chair. Ce qui est intéressant dans l'imprévu dont on parle aujourd'hui et dans l'inattendu, c'est qu'en fait, c'est l'incertitude devenant expérience. C'est véritablement la mise en expérience de l'incertitude, ce sont des faits, des événements, et qui vont effectivement venir bousculer quelque chose en moi, pour le meilleur, pour le pire, parfois d'ailleurs on ne sait pas pourquoi. Mais effectivement, ce qui est sûr en revanche, c'est que le cauchemar, probablement, serait de vivre une vie où tout serait totalement planifié, et prévisible à l'avance, et en plus non seulement ça serait prévisible, mais ça se passerait comme ça a été prévu, ce qui serait l'horreur absolue.
Cécile Guéret, nous oublions que la condition normale de nos vies, eh bien, c'est l'incertitude, l'inattendu, l'imprévu.
Oui, alors on l'oublie quand même de moins en moins ces derniers temps, avec la crise sanitaire, avec aussi la crise écologique, la crise économique, sociale, on baigne dans énormément d'incertitudes, ce qui peut être extrêmement insécurisant. Et effectivement, je suis d'accord avec ce que disait Charles Pépin en introduction sur le fait que l'incertitude ou l'inattendu, c'est le lieu de la vie, du mouvement, de la nouveauté possible, mais à condition que ce soit possible justement. C'est-à-dire qu'il faut quand même être, en tant qu'individu, assuré d'une certaine sécurité intérieure, ou en tout cas d'avoir une certaine sécurité, parce que si c'est pas en soi, ça peut être aussi autour de soi, dans l'environnement, pour affronter ces inattendus ou être capable de vivre dans cette incertitude, parce que sinon ça peut vite faire effraction, faire effroi ou sidération et être extrêmement déstabilisant.
Philippe Gabillier, quelle est votre définition de l'inattendu?
Je dirais que l'inattendu, c'est en fait ce que l'on n'avait pas lieu d'attendre. C'est ce qui intervient contre toute attente, justement. C'est ce qui vient prendre par surprise les virtualités que je croyais avoir mises bien en ordre dans ma tête, qu'on les appelle d'ailleurs, le vocabulaire est très riche, hein, on a un vocabulaire à l'ère de la modernité extraordinaire, les projets, les plans, les perspectives, etc. On vit dans un univers effectivement où nos outils symboliques, nos outils totémiques de base, en tout dans le monde de l'entreprise, qui moi, dans le monde que je connais bien, les outils totémiques, c'est l'agenda, c'est le plan d'action et c'est Excel. Donc en fait, des objets qui pourraient nous laisser croire de façon magique que l'inattendu peut être maîtrisé, etc. Alors c'est effectivement pas du tout le cas. Et donc quand on dit que l'inattendu, c'est ce qu'on n'avait pas lieu d'attendre, c'est qu'en fait, ce qui est arrivé, si on avait annoncé que ça allait arriver, souvent autour de nous, les bons esprits auraient dit « mais enfin, tu plaisantes, c'est pas sérieux, c'est tellement improbable ». Très peu de chances que ça se passe comme ça. Et justement, la caractéristique du réel, même dans nos vies, c'est que la plupart du temps, le réel, c'est effectivement de l'aléa qui vient perturber nos plans.
Exemple avec cet événement sans précédent qui nous est tombé dessus en mars 2020, le premier confinement, un événement qui nous a marqué à vie et qui a modifié en profondeur nos façons de vivre. C'est ce qu'on appelle un signe noir, selon l'essayiste et chercheur Nassim Nicolas Taleb. Le signe noir, c'est un événement imprévisible qui a une faible probabilité de se dérouler et qui a des conséquences considérables.
Et donc la troisième caractéristique est que en advenant, il modifie radicalement et pour longtemps la perception qu'on avait du monde dans lequel il est advenu. Donc, si c'est aussi effectivement, on est de ce point de vue-là dans un signe noir. Si ce n'est que Nassim Taleb a souvent, en tout cas dans ses exemples, une conception justement très sombre du signe noir. Mais je pense qu'il peut y avoir des signes noirs qui sont en fait tout à fait lumineux parce que ils ont révélé des choses, ils ont accéléré des choses. Et je pense que souvent l'imprévu d'ailleurs, l'inattendu, a un je ne sais quoi d'ambigu. C'est-à-dire que par exemple la pandémie, bah, effectivement, c'est une catastrophe. Le nombre de gens qui aujourd'hui commencent à dire ça a été une catastrophe, mais je dois admettre que grâce à cette pandémie, j'ai pu inventer, créer, développer, vivre tel type de choses. Donc tout ça mérite d'être là aussi retravaillé au tamis de l'expérience vécue. Quoi.
Cécile Guéret, ce que nous montre très bien la crise sanitaire, c'est que bah, la vraie vie est toujours inattendue, remplie d'imprévus, d'aléas, d'accidents.
Oui, et exactement. C'est-à-dire qu'en fait, je dirais, la vraie vie est tout le temps remplie d'accidents, d'aléas, d'inattendus, c'est sûr. Après, c'est une disposition intérieure et une possibilité à certains moments de la vie de voir ce qu'il y a d'inattendu. Parce qu'en fait, il y a de l'inattendu partout, tout le temps. Il y en a là, il y en a quand on fait son café dans la cuisine le matin, quand on est dans le métro ou dans les embouteillages. Enfin, il y en a en permanence de l'inattendu. Ça peut être des toutes petites choses, hein, d'ailleurs. C'est pas forcément des grandes choses inattendues. Mais la question, c'est de savoir quelle est ma possibilité en tant que personne, en tant que sujet, quelle souplesse j'ai pour aller vers cet inattendu, pour l'accueillir. C'est toujours un petit peu un équilibre entre le besoin de familier, parce que les certitudes aussi, ça nous rassure, ça nous réconforte, ça nous fait du bien, et le besoin aussi, la nécessité d'inattendu, de nouveauté. C'est-à-dire qu'on est tout le temps dans cet équilibre, et je crois que en tant qu'individu, l'un ne va pas sans l'autre, parce que trop d'inattendus, bah, c'est le risque de perdre contact avec le réel. Trop de familiers, ça peut être aussi de l'immobilité, voire même mortifère ou déprimant. Donc on sait comment est-ce qu'on fait chacun avec ces deux polarités, en fait.
Christophe André.
Et cet inattendu, il est intéressant à observer, à étudier, parce que, par exemple, pour les chercheurs en psychologie des émotions, ils nous disent qu'il y a une émotion, qui est l'émotion de réaction à l'inattendu, c'est la surprise. On oublie souvent la surprise dans la liste des émotions fondamentales. Pourtant, elle est une émotion fondamentale puisqu'elle est accompagnée d'une mimique universellement reconnaissable. Et cette surprise, effectivement, elle met notre esprit et notre corps en éveil. Nous nous tournons vers ce qui vient de débouler dans nos vies. Et finalement, cette émotion de surprise et cet inattendu, on pourrait l'étudier comme on étudie les émotions. C'est-à-dire l'inattendu, aussi l'impact de l'inattendu et sa digestibilité dépend de deux choses, de sa valence, est-ce que c'est un inattendu positif ou négatif, bonne ou mauvaise surprise, et de son intensité, est-ce que c'est un petit événement ou est-ce que c'est quelque chose qui va ravager, bousculer, tout déplacer dans notre quotidien.
Philippe Gabillier.
Et je pense que la notion de surprise est effectivement centrale dans cette affaire-là. La surprise étant en plus une émotion, mais là je parle sous le contrôle de Christophe André, est une émotion qui a une caractéristique, je trouve. Il y a deux caractéristiques incroyables dans la surprise. C'est que d'abord, c'est une émotion qui ne peut pas par définition durer. Autant on peut être triste longtemps, on peut être joyeux, mais être quelqu'un qui va être surpris longtemps, il y a un problème. Quoi. On peut être surpris. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis surpris. Bon, un peu étonnant. Et surtout, c'est une émotion, je trouve, extraordinaire. C'est un sas, la surprise. C'est-à-dire, c'est une émotion qui ne prend sens qu'à partir de l'émotion qui la suit. C'est-à-dire qu'il y a des surprises qui vont me rendre joyeux, des surprises qu'il y a derrière, j'aurais peur, des surprises, je serais dégoûté derrière. Et donc, c'est très intéressant, cette notion de sas. Comme si d'ailleurs, l'inattendu aussi, d'un point de vue métaphorique, c'était inattendu et imprévu, sont peut-être aussi dans les vies. Un sas pour quelque chose d'autre qu'on n'attendait pas.
Alors Philippe Gabillier, nous n'avons pas anticipé cette crise sanitaire, alors que nous passons notre vie à anticiper ce qui pourrait nous arriver dans notre vie personnelle, professionnelle, sociale, intime. On passe notre vie à anticiper, à planifier. Et là, cette crise sanitaire percute tout ça.
Oui, mais enfin, comment dire, c'était celle-là, elle a été balèze, hein, la crise en question. Mais on a passé l'histoire de la civilisation, c'est l'histoire des surprises qu'on a eues. Personne n'a vu venir la peste, personne n'a vu venir la guerre de 14 s'est déclenchée sur un événement absolument ridicule d'un gars qui se fait désinguer à Sarajevo, et tout ça, ça va déclencher une conflagration mondiale. Le 11 septembre, qui l'a vu venir, la crise de 2008. Alors après, si les bons esprits derrière vous diront oui, mais on aurait dû s'en douter. En fait, nous vivons dans l'espèce d'illusion de contrôle très souvent dans la civilisation, dans la modernité, c'est un héritage de Descartes, il serait peut-être étonné qu'on héritait uniquement ça de lui, mais comme si bien vivre, c'est vivre, en tout cas dans les organisations, dans les États, c'est vivre avec le contrôle. Or, par définition, et tout le monde le sait, la plus grande surprise que puisse vous faire un plan, c'est de se dérouler comme prévu. Et donc, à partir de là, je dirais, l'aléa est quasiment une obligation. Et ce qui est très intéressant d'ailleurs, c'est que, heureusement qu'on a des plans, mine de rien. Parce que si on n'avait pas de plan, qu'est-ce qu'on ferait de l'aléa quand il arriverait? Donc, voilà. En revanche, la réconciliation entre la planification et l'improvisation, pour moi, dans la vie en général, hein, c'est, je pense aussi, et dans la conduite des États, dans la conduite des affaires, c'est un des grands enjeux, je dirais, de l'esprit des temps à venir, me semble-t-il.
Cécile Guéret, accueillir l'inattendu est un défi, hein, dans une société de précaution qui célèbre la vie en mode airbag, parachute et harnais, une société qui déteste plus que tout l'aléa. Pourquoi avons-nous autant de mal à affronter les surprises de l'inattendu?
Parce que ça peut être très insécurisant, parce que c'est vrai que le familier, les certitudes, ça nous rassure, ça évite aussi le sentiment d'impuissance, parce qu'au moins on a l'impression de faire quelque chose, de contrôler, et puis c'est aussi le principe de précaution, ça permet aussi d'avoir l'impression que l'univers est bien en ordre, bien balisé, qu'on sait où on met les pieds, donc ça c'est vrai que c'est extrêmement rassurant, et d'une certaine manière on a besoin de ça, hein. Il s'agit pas du tout de balayer ce besoin de sécurité et de familier, mais ce qui peut être compliqué, c'est que quand on est très angoissé, notamment, l'angoisse fait tout pour substituer justement le connu à l'inconnu, c'est-à-dire vraiment essayer de tout faire, de tout rentrer dans les grilles du familier, du déjà vu, du déjà connu, et d'évacuer tout inattendu, au risque d'évacuer même la vie elle-même, finalement, le mouvement de la vie, ce qui fait sa saveur, ce qui fait la possibilité d'aller vers les autres, de se redécouvrir aussi soi-même, parce que l'inattendu, c'est aussi la possibilité, ne serait-ce que dans une conversation, quand il y a quelqu'un qui dit quelque chose, même quelqu'un qu'on connaît très bien, hein, même une personne avec qui on vit depuis 30 ou 40 ans, tout à coup il va dire un truc, on va dire c'est marrant, je pensais pas que tu allais dire ça, ou je pensais pas que tu avais ce point de vue-là. Eh ben, ça nous remet, nous aussi, en mouvement intérieurement. C'est pas seulement l'autre qu'on voit différemment, ni le couple qui se remet en mouvement. C'est aussi nous, comme, parce que ça nous affecte, ça nous remet en mouvement.
Question de Marie-Laure Zonshein, de Femme Actuelle.
Oui, est-ce qu'on n'a pas perdu, finalement, Christophe André parlait tout à l'heure de la surprise, aussi une capacité de s'adapter, de réagir? Voilà, ce matin, il pleut, on l'a tous constaté. Qu'est-ce qu'on a fait, probablement, tous autour de cette table? On a pris notre iPhone, on a regardé à quelle heure il allait pleuvoir et on s'est adapté à cette situation. On a peut-être pris le métro, on s'est rendu compte qu'il y avait du retard sur une ligne, on s'est adapté aussi à cette situation. Mais autrement dit, qu'aurions-nous fait si nous n'avions pas eu, pour nous tous autour de cette table il y a quelques années, tous ces éléments, tous ces moyens finalement de prévoir ces petites choses du quotidien? À l'époque, on trouvait une autre solution. Bah, on se mouillait, on arrivait en retard.
Oui, voilà.
Et qu'est-ce que ça changeait?
Ça changeait absolument rien. Mais en revanche, là où vous avez tout à fait raison, par rapport à cet exemple très quotidien de la pluie, moi par exemple, vous voyez, je suis bordelais. Je suis né à Bordeaux, j'y ai grandi.
Personne
j'ai
n'est pas, parfait.
J'ai,
hein.
Ben oui, mais j'ai passé ma vie avec un parapluie. Parce que Bordeaux, c'est merveilleux, mais il pleut tout le temps. Et quand je suis arrivé à Paris, pour moi, Paris, c'est une ville où il ne pleut pas, par exemple. Vous voyez, parce que j'ai été, comme dans le Pays Basque et en Aquitaine, il pleuvait davantage. Et c'est vrai que, et voyez, l'application, je viens de me rendre compte en vous écoutant que je l'ai, moi, l'application. Et ce matin, je ne l'ai pas regardée. Allez donc savoir pourquoi. Mais ce qui est exact, c'est que nous avons autour de nous des outils, nous avons des objets aujourd'hui magiques qui sont censés aussi nous donner ce sentiment, c'est pas toujours une réalité, c'est le sentiment du contrôle, parce que je pense que le sentiment de contrôle est un des éléments constitutifs de l'état d'esprit de la modernité, et que je crois que les événements nous forcent justement à penser différemment, et je crois que réapprendre pour le coup et se préparer mentalement en toute situation de la vie, des plus banales aux plus graves, à improviser, fait partie, se donner d'ailleurs le droit d'improviser, fait partie maintenant d'un état d'esprit de l'époque qui me semble pertinent et en plus créatif. Et puis par rapport à l'adaptation, juste pour terminer, moi ce qui m'a toujours embêté dans l'adaptation, vraiment, même philosophiquement, pour moi s'adapter c'est se soumettre. Effectivement, quand on dit aux gens d'ailleurs tu dois t'adapter, ben c'est soumets-toi à toi-même, soumets-toi à la société. Et je pense que dans le fond, l'innovation, l'invention se nourrissent davantage effectivement d'improvisation que d'adaptation. L'adaptabilité, c'est qu'une des solutions possibles. On peut essayer de faire autre chose, inventer, se projeter, changer de braquet, voilà.
Philippe Gabillier, Marie-Laure Zonshine évoquait le passé. Depuis des dizaines de milliers d'années, le souci de l'avenir reste l'une de nos principales préoccupations. Nous consultons depuis la nuit des temps des oracles, des sorciers, des voyants, des prophètes, des prévisionnistes aujourd'hui, des futurologues, des prospectivistes comme vous.
Oui, alors c'est vrai que dans les désirs fondamentaux de l'être humain, il semble qu'il y ait eu, ce qu'on peut comprendre, le souci de savoir, de comprendre de quoi demain allait être fait. Et certes, au départ, la divination, sous toutes ses formes d'ailleurs, on voit les premières traces vraiment de systèmes divinatoires structurés, c'est autour de 3500 avant notre ère, c'est à Babylone, chez les Sumériens. Il y a quelques traces en Chine, mais on n'est pas tellement sûr de la date. Il y a cette idée qu'il existerait des individus, les devins, ils disposent d'un code de lecture de la réalité qui leur permet d'avoir un accès au futur. Que ça s'appelle les entrailles des animaux, les osselets, les cartes à jouer, les tarots, les astres, bon. Et alors bien évidemment, la modernité arrivant, on a dit oui, mais faut un petit peu sérieux, on va sortir de cette superstition et on va passer à la rationalité. Et donc, en fait, on a continué à faire exactement la même chose, mais maintenant, on a des experts, des devins qui lisent dans les statistiques, la recherche opérationnelle, les probabilités, etc. Mais fondamentalement, l'idée, après c'est un grand débat philosophique, mais l'idée qu'on puisse connaître l'avenir est une absurdité de mon point de vue philosophique. C'est-à-dire que personne n'a jamais été demain matin. C'est ce qui fait à la fois le tragique et la beauté de toute vie. En revanche, c'est pas parce qu'on ne peut pas savoir de quoi demain sera fait qu'on n'a pas intérêt à essayer de le faire quand même, parce qu'on se rend compte dans la pratique, les prospectivistes le savent, quand quelqu'un vous parle du futur, il est en train, sans s'en rendre compte, de vous parler de la façon dont il voit le présent. Et donc, ça donne des clés de lecture, je dirais, de son réel, qui sont vraiment, qui ont beaucoup de valeur.
Dans votre livre, vous expliquez qu'anticiper ce que va être sa vie, ce n'est pas tenter de deviner ce qu'elle sera demain, c'est avant tout jeter un regard différent sur son présent. Et je vous cite, c'est déceler en toute occasion, en tout lieu, les germes plus ou moins prévisibles de l'avenir, c'est capter avec bonheur et lucidité les surprises inattendues du réel.
Oui, et que ces surprises d'ailleurs soient ou ne soient pas. Je crois que d'ailleurs que l'un des éléments clés de l'équilibre, me semble-t-il, et j'ai longtemps cru, moi, faisant du développement personnel, en travaillant en entreprise, que voilà, pour être bien, il fallait savoir où on allait, fallait avoir des objectifs, des buts, etc. Et autour de 50 ans, j'ai arrêté. Je me suis dit, mais non, ça fait 30 ans que je suis sur une illusion. En revanche, il faut avoir des désirs, des attentes, et créer les conditions pour accueillir un certain nombre de choses. Mais plus j'avance, plus j'ai des doutes sur l'efficacité et la puissance du plan d'action, de l'objectif, des étapes, etc.
Cécile Guéret, vous avez des doutes, vous qui êtes bien loin de la cinquantaine?
Oh, on se rapproche. C'est le problème du futur, c'est qu'il se rapproche un peu trop vite. Oui, je trouve ça vraiment très très intéressant ce qui vient d'être dit. Est-ce que Ce qu'on voit aussi, alors évidemment, moi je suis en psychothérapie, donc les personnes que j'accompagne, c'est un regard qui est très différent. Mais ce qu'on voit en psychothérapie, c'est aussi à quel point finalement le c'est ce que disait saint Augustin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de passé, présent, futur. Il n'y a que le passé réinventé, remodelé, remanié au présent, le présent insaisissable, et puis le futur qui est finalement ce qu'on imagine de l'avenir, ce qu'on projette, ce que les envies qu'on aurait. En fait, tout ça finalement se joue en permanence au présent, et c'est très intéressant en psychothérapie de voir aussi quelle forme on peut donner à l'avenir.
Vous me tendez une perche, Philippe Gabillier, quelle est la différence entre l'avenir et le futur? C'est pas qu'une question sémantique.
Non, c'est pas qu'une question sémantique. Moi je pense fondamentalement que le futur, on en a qu'un, c'est-à-dire c'est ce qui va m'arriver. J'ai un futur, ça sera l'objet de ma biographie le plus tard possible, et c'est l'enchaînement des événements tels qu'ils seront. C'est inconnaissable, de mon point de vue, ou alors ça serait par révélation, bon, dans ce cas c'est autre chose, hein. On est sur un autre champ. Voilà. Donc le futur, en soi, c'est quelque chose qui est insaisissable. L'avenir, c'est différent. L'avenir, c'est l'ensemble des futurs qui vivent en moi aujourd'hui, et qui font que je vais avoir envie justement d'élaborer des projets, peut-être d'écouter mes désirs dans l'instant présent. Et ce point de vue-là me semble tout à fait intéressant. Et je donne souvent cet exemple, les punks, le slogan punk, c'était No Future. Mm. Mais ça, le punk, il avait un futur comme les autres, mais il n'avait pas d'avenir, c'est autre chose. Mm. Et à cette distinction d'ailleurs entre avenir et futur, on a beaucoup de chance d'être français, parce que nous on peut la développer d'un point de vue philosophique, ce que nos amis anglo-saxons ne peuvent pas faire, puisqu'il n'y a qu'un seul mot en anglais qui est future, alors que nous avons la chance d'avoir avenir et futur, et qu'on peut essayer de développer une pensée autour de ça.
Dans un instant, des outils concrets pour faire face à l'imprévu, et nous écouterons Hélène qui nous a appelé au standard au 01 45 24 7000. En attendant, je vous propose d'écouter Catherine Ringer qui interprète Le Vent.
Si par hasard sur le pont des arts tu croises le vent fripon. Prudence, prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent maraud. Prudence, prends garde à ton chapeau. Prudence, prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent marron, prudence, prends garde à ton chapeau. Les gens foutraient, les gens trouvent, mélisse du vent furibond, qui rebrousse les bois, retrousse les toits, détrousse les robes. Des gens foutres et des gens pauvres, le vent, je vous en réponds, sans souci, et c'est justice, comme de Colin tampon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent fripon, hé, prudence, prends garde à ton jupon. Bien sûr, si l'on ne se fonde que sur ce qui saute aux yeux, le vent semble une brute raffolante, nuire à tout le monde. Mais une attention profonde prouve que c'est chez les fâcheux qu'ils préfèrent choisir les victimes de ces petits jeux. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent en fripon, prudence, prends garde à ton jupon. Si par hasard,
Catherine Ringer interprétait Le Vent.
Tu connais la phrase de Lao Tzu sur l'inattendu?
Non.
Grand bien vous fasse.
Aveugle, nous suivons le sentier de la vie. La petite perle sur ton chemin, la verras-tu.
Sur France Inter.
10h30, comment faire face à l'inattendu, c'est notre thème ce matin avec le professeur en psychologie Philippe Gabilier, avec la thérapeute Cécile Guéret. Béatrice nous écrit ceci, l'inattendu et ses surprises, même si elles sont bonnes, me mettent mal à l'aise et me stressent, peut-être parce que je souhaite tout maîtriser, se demande donc Béatrice. Cécile Guéret.
Oui, effectivement, c'est possible. Alors, c'est à elle, ce serait à elle de dire, et ce serait avec elle qu'on pourrait creuser, voir effectivement ce que ça crée pour elle, ce besoin de maîtriser ou cette crainte de l'inattendu. C'est ce qui me permet de dire ce qui me semble important, c'est aussi d'avoir de la tendresse pour nos empêchements, de regarder avec indulgence les moments où on peut pas aller vers l'inattendu, ou alors on a beaucoup besoin effectivement de contrôler parce que ça crée de l'anxiété ou de l'angoisse, et de regarder avec tendresse et indulgence cette manière d'être au monde, cette organisation qu'on a, qui est certainement pas là par hasard. C'est comme ça qu'on s'est construit. Peut-être à un moment, ça nous a été utile. Peut-être même salutaire. Aujourd'hui, c'est désajusté, ça convient pas tout à fait, ça peut nous faire souffrir ou nous empêcher. Mais c'est comment est-ce que on peut faire un petit peu différemment. Et j'insiste sur le un petit peu parce que parfois, c'est justement, c'est pas forcément des grandes choses, mais c'est des tout petits pas qui permettent d'avancer de manière solide.
Philippe Gabilier, je rappelle que vous publiez Éloge de l'inattendu.
Tout à fait, oui. Et la notion d'éloge, en fait, elle est aussi un peu provocatrice, quoi. Je crois que c'est le romancier, je crois que c'est Christian Bobin, je crois que c'est dans La Folle Allure, où il dit dans le fond, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ne prévoir que l'imprévisible et n'attendre que l'inattendu. Mais ça, je dis souvent, ça c'est un luxe de poète ou d'amoureux. Mais si on est un homme d'État ou un chef d'entreprise ou un grand chirurgien, cette notion d'inattendu n'est pas obligatoirement quelque chose qui est positif. Il faut l'accepter. Faut accepter ça aussi. Il y a le lien avec le contrôle. Et on est d'autant plus apte à aimer l'inattendu qu'on a quand même au fond de soi un certain sentiment, non pas de contrôle, mais de capacité justement à rebondir, réagir, s'adapter, etc.
Et nous accueillons avec plaisir Hélène. Bienvenue Hélène.
Oui, bonjour à tout le monde.
Bonjour.
Alors moi j'avais envie de réagir sur ce mot, sur l'incertitude. Mm-hmm. Moi j'en ai une vision très positive. Très tôt, elle m'a accompagnée dans ma vie, mais j'ai trouvé que ça me faisait sentir très vivante en fait. Parce que s'il y a une situation par exemple qui me déplaisait, j'étais persuadée qu'il y aurait un événement incertain qui se produirait et qui bousculerait tout ça. Ça s'est vraiment produit très souvent dans ma vie et j'en ai fait une force. Et pourtant, c'est pas que des événements positifs hein, pour rester dans l'actualité. Avec le Covid par exemple, j'ai une entreprise depuis 10 ans de conseil et de coaching et qui tournait très bien, et j'ai acheté une grande maison. Voilà, le Covid est arrivé, mon plus gros client est parti. Oups, je fais quoi c'est et j'ai profité pour repasser une licence, voilà, 10 ans pendant plusieurs mois. Et rebondir, voilà, ça me fait vraiment me sentir vivante, trouver aussi une force quand j'accompagne par exemple mes clients, puisque j'accompagne des dirigeants, leur montrer que l'incertitude, ça nous fait aussi prendre des certaines décisions et puis ne pas s'appuyer que sur ce qui est déjà là. Je voulais témoigner sur ça, sur en fait que moi j'en ai une vision assez positive. Ça peut être fatigant. Ouais. Ça peut être fatigant, hein, mais j'en ai plutôt tiré une force.
Philippe Gabilier, vous prenez des notes au témoignage d'Hélène.
Oui, ce témoignage d'Hélène nous montre que dès l'instant où cette incertitude se transforme en réel, c'est-à-dire en expérience, donc de l'inattendu ou de l'imprévu, elle fait presque toujours, fonction et de révélateur et d'accélérateur ou de déclencheur de quelque chose. Et d'ailleurs, faire quelque chose avec l'imprévu et l'inattendu, c'est toujours se dire, qu'est-ce que dans le fond ça révèle, qu'est-ce que ça a accéléré, voire au contraire, qu'est-ce que ça a arrêté brutalement en cours de route. Mais on est toujours dans cette vieille logique de la philosophie anglo-saxonne qui est dire, c'est Aldous Huxley qui disait, la vie réelle, quoi. La vie réelle, c'est jamais ce qui nous arrive. C'est toujours ce qu'on va faire avec ce qui va nous arriver. Et dès l'instant où on transforme, et ce que dit Hélène est très juste, c'est il y a de toute façon une transformation de l'incertitude en action. Hein. On n'est plus dans le to be or not to be, hein, on est dans le to do or not to be. C'est faire ou ne pas être, agir ou renoncer à devenir ce qu'on aurait pu devenir si l'inattendu s'était pas invité au truc, quoi.
Cécile Guéret.
Oui, je rajouterais aussi renoncer à la tentation du storytelling, hein, qui est très actuelle, c'est-à-dire l'idée
de récit,
faire, voilà, de faire tout le temps un récit de ce qui nous arrive. Et je trouve que l'inattendu, c'est aussi, et c'est ce que disait Hélène dans son témoignage, ça nous oblige, ou en tout cas ça nous invite, à rester un peu dans un moment où on ne sait pas trop ce qui arrive, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Ce qui arrive, c'est pas forcément sous la forme attendue ou la manière attendue. Et on, peut-être plus tard, on pourra en faire un récit, une compréhension, l'intégrer à notre histoire, mais s'autoriser ce moment de suspens.
Merci beaucoup Hélène de nous avoir appelé. Alors beaucoup de réactions sur notre page Facebook. Sylvie qui nous écrit « Dans un monde de plus en plus normé, codifié, j'aime me laisser surprendre par l'inattendu. La surprise peut s'avérer bonne ou mauvaise, mais elle force toujours une réaction ou une réponse dénuée de calcul et donc instinctive. Je me sens alors plus vivante, même si ce sentiment est fugace, il est délicieux. » Et Patrice, « Nous vivons dans un monde formaté, stéréotypé, programmé, et pourtant l'imprévu, c'est le charme, le sel de la vie. Quoi de plus beau qu'une rencontre amoureuse inattendue dans un train, une histoire vraie, la mienne. » C'est pour vous, ça.
Merci.
C'est je rappelle que vous êtes également thérapeute de couple. Et vous citez d'ailleurs dans votre livre le pédopsychiatre et psychanalyste Daniel Marcelli, « Nulle rencontre sans surprise, la surprise préside à toute rencontre, elle en est la condition. »
Oui, en fait, rencontrer l'autre, c'est d'une certaine, enfin, quand c'est possible, en tout cas, de s'ouvrir à cet inattendu, à cette surprise. C'est la surprise déjà de l'autre qu'on va rencontrer dans sa différence, dans son altérité, parce que l'autre, il est forcément différent de nous, donc il y a quelque chose qui peut être inattendu à cet endroit-là. Mais c'est aussi comment l'autre nous affecte, donc comment aussi il nous fait découvrir une partie de nous-mêmes qu'on ne connaissait pas dans cette situation singulière qui ne s'est jamais vécue auparavant, et comment ça aussi, ça nous fait bouger. Toute rencontre en cela est surprise, à condition qu'on puisse ou qu'on ce soit possible de se laisser, de s'ouvrir en tout cas à cet inattendu.
Quel est le mode d'emploi justement pour s'ouvrir à la rencontre inattendue?
Eh ben, je crois qu'il y a, ce serait, disons, enfin, il y a plusieurs pistes, hein, que je creuse pas mal dans mon livre, mais ce qui me semble vraiment essentiel, c'est déjà ne pas disparaître en face de l'autre, parce que souvent on a l'idée que dans la rencontre, ou en tout cas, on peut avoir cette tentation ou cette difficulté à exister face à l'autre. Moi, j'entends beaucoup ça dans mon cabinet de psychothérapie, et c'est vraiment l'idée de comment est-ce que on a le droit de coexister. On a le droit d'être différent, on a le droit d'avoir des avis différents et néanmoins que l'un ne s'efface pas sous le regard de l'autre. Donc c'est vraiment l'idée de la coexistence. Et toi et moi, c'est pas ou toi ou moi, c'est et toi et moi. Et puis ce qui me semble important aussi, c'est de la possibilité d'être émerveillé par la différence de l'autre. Et ça, qu'on rencontre l'autre pour la première fois ou qu'on soit en couple depuis 30 ou 40 ans, l'émerveillement est toujours possible. Il y a toujours quelque chose de nouveau. On peut toujours regarder ce qu'on n'avait pas vu, ce qu'on ne connaissait pas de l'autre.
Puis il est important de baisser la garde, de ne pas forcément attendre quelque chose de l'autre, de la rencontre.
Oui, alors c'est ce qui peut être aussi très insécurisant. C'est pas facile de baisser la garde parce que c'est aussi s'ouvrir à l'autre et donc l'autre, par sa différence, il peut me faire vivre du bon, mais aussi des choses difficiles ou mauvaises dans cet inattendu.
Philippe Gabillier, vous consacrez quelques pages à la rencontre inattendue.
Oui, qui effectivement est... Et il me semble que c'est un des éléments structurants, en tout cas des vies intéressantes. Voilà. Cette notion d'... Alors, après, il y a des bonnes rencontres inattendues, il y a des mauvaises rencontres inattendues, ça c'est sûr et certain. Moi j'aime bien beaucoup cette phrase, je crois que c'est Saint-Exupéry qui disait « La rencontre de la réussite passe souvent par la réussite des rencontres, d'une façon générale. » Mais c'est vrai que pour que ces rencontres puissent avoir lieu, encore faut-il, paradoxalement, pour que l'inattendu puisse avoir lieu, encore faut-il l'attendre. Ou plutôt, faut-il s'y attendre. Se dire, tiens, il va m'arriver, cette soirée, j'ai pas envie d'y aller, de toute façon, j'y connais personne. Alors, on devrait dire, mais s'il y a vraiment une raison pour laquelle je dois aller à cette soirée, c'est parce que je n'y connais personne. À condition d'y arriver dans une disposition d'esprit, qui soit justement celle de who knows, quoi. Qui sait? Peut-être qu'il se passera des choses. Donc, il y a un problème, effectivement, à la fois d'intention, et d'attention, et d'être attentif à ce qui se passe autour de soi. Pour moi, d'ailleurs, c'est le triptyque magique. Hein, c'est intention, je dirais être vraiment désireux que des choses se passent, même si je ne sais pas quoi. Attention, je vais déployer mes antennes et connexion, je pourrais pas le faire tout seul de toute façon. Donc si j'ai les trois, si j'arrive à tenir les trois, c'est bien le diable s'il se passe pas quelque chose.
Alors j'ai relevé une jolie phrase dans votre livre, nul ne peut par définition savoir quand l'inattendu frappera à sa porte, mais on peut au moins avoir dressé le couvert et préparé la chambre.
Voilà, c'est ce que j'appelle la philosophie du Airbnb. Voilà, absolument.
Comment laisser venir la surprise, l'inattendu, des conseils pratiques peut-être, Cécile Guéret?
Alors moi, il y a un exercice que j'aime beaucoup, qui est aussi pour un peu s'exercer à avoir un regard curieux sur le monde, hein, à voir aussi l'émerveillement dans le monde qui nous entoure, qu'on croit bien connaître. C'est s'entraîner à regarder ce qui se passe autour. En fait, on perd complètement l'habitude de ne serait-ce que s'asseoir à une terrasse de café et regarder ce qui se passe autour de nous. C'est comme si on voyait pas vraiment l'inattendu, la différence, l'étonnant de ce que sont les autres personnes ou le monde autour de nous. Et alors, ça peut être soit de regarder juste comme ça, en laissant la curiosité ouverte, soit cet exercice que j'aime bien, c'est d'imaginer que les gens autour de nous sont des grands singes. On n'est pas si éloigné que ça, hein, des singes, mais ça permet un petit décalage et tout à coup voir l'autre en face évoluer comme un singe ou l'enfant qui est tiré par sa maman comme qui est tiré derrière comme un petit singe. Ça permet un petit décalage et de s'amuser un peu de cette curiosité-là, de cet émerveillement qu'on peut avoir sur le monde. Et je trouve que ça exerce le regard à la possibilité de voir la différence et l'inattendu.
Vous nous conseillez donc de jouer les éthologues, les observateurs du comportement animal. Philippe Gabillier, pouvez-vous partager des outils pour apprivoiser l'inattendu?
Il me semble qu'il y a un entraînement au quotidien autour de la notion d'improvisation. Je dis pas que la planification et la prévision s'opposent, mais enfin, elles sont quand même en polarité avec l'improvisation. Et je dirais, qu'est-ce qui caractérise, moi je travaille avec des jeunes qui sont dans des ligues d'improvisation. Quand on fait de l'improvisation théâtrale, par exemple, je trouve que c'est une métaphore de la vie passionnante qui est extraordinaire. C'est-à-dire que quand on est en improvisation, il ne faut pas jouer que son jeu, il faut surfer sur ce que l'autre dit ou ne dit pas. Il faut bien sûr avoir une idée en tête, mais être capable d'en changer rapidement. Et je pense qu'il y a des situations de vie, justement quand on les maîtrise très très bien, où on peut parfois se donner le droit, dire tiens, comme je maîtrise totalement, donc si par hasard ça tourne mal, je saurais récupérer. Mais là, ce jour-là, dans cette réunion-là, je vais improviser. Mais je n'improvise pas à partir de rien. Mon expérience, etc. Mais je vais improviser. Je vais lâcher le contrôle, en tout cas en partie. Ça ne veut pas dire c'est le lâcher prise totale. Non, parce que lâcher prise totale, c'est pas possible. C'est un domaine dans lequel je suis expert, etc. Mais je vais me laisser pas faire ce qui était prévu. Je vais changer au dernier moment le plan que j'avais moi-même décidé de suivre. Je vais me mettre dans une espèce de déséquilibre créatif assumé. Et là aussi, c'est quand même bien le diable s'il se passe pas quelque chose.
C'est d'agir en explorateur.
Agir en explorateur et vraiment réveiller l'improvisateur intérieur. Voilà.
Et également, dans votre livre, vous nous conseillez de nous appuyer sur le temps long. Expliquez-nous. Et d'ailleurs, dans votre livre, vous parlez de futur socle. Pouvez-vous nous expliquer cette notion-là?
En fait,
très importante.
Pour moi, c'est une notion essentielle parce que nous sommes picouser littéralement l'accélération du monde, le temps qui passe, etc. Or, ce qui est aussi très très intéressant, je trouve, dans nos vies, c'est ce qui n'a pas vocation à changer, ce qui ne changera pas. Qu'est-ce qui était vrai pour moi hier, qui est toujours vrai pour moi aujourd'hui, et je fais l'hypothèse que ça sera toujours vrai pour moi demain. Ça peut être un lieu de vie, ça peut être un système de valeurs, ça peut être plein de choses, mais je pense que nous sommes aussi des êtres enracinés, et que plus on est, dans le fond, enraciné, plus on va avoir un rapport, je trouve, très positif à l'improvisation, le rapport à l'inattendu. Et d'ailleurs, je pense vraiment que la peur, par exemple, la peur du futur, lorsque c'est une peur vraiment panique, qui peut même amener à mettre l'autre à distance, etc., la peur du futur, paradoxalement, elle est souvent le signe d'un manque de racines. Les gens qui ont peur de demain, ils se souviennent pas toujours d'où ils arrivent exactement. Et c'est vrai que, je pense, en développement personnel, là aussi, je dis, moi, quand j'étais beaucoup plus jeune, je demandais toujours à mes gens, en priorité, qu'est-ce que vous voudriez faire? Votre objectif, c'est quoi? J'ai arrêté de dire ça depuis des années. Maintenant, je dis, on va démarrer, on se voit pour la première fois aujourd'hui. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous pourriez me dire où vous êtes aujourd'hui et comment c'est vous qui vous y êtes mené? Et après, on essaie, à partir de là, on pourra peut-être commencer à discuter de l'inattendu pour demain.
Il est précisément 11h moins le quart et il est temps de retrouver les choses vues de notre ami psychiatre Christophe André.
France Inter.
T'es quoi, t'es suis médecin, psychiatre.
Grand bien vous fasse.
Psychothérapeute. Qu'est-ce qui me prouve que t'es psychothérapeute ?
Christophe André.
Alors nous parlons aujourd'hui de retrouver le goût de l'inattendu. Bah, c'est une excellente idée et je vois au moins trois bonnes raisons à cela. L'inattendu est inévitable, il est désirable et il est favorable. L'inattendu est inévitable, bien sûr, et on peut même dire que vivre, c'est s'attendre constamment à de l'inattendu. Que notre vie est la somme de tous les efforts que nous faisons pour prévoir, planifier et construire, et que sur tous ces efforts, ça bat régulièrement la pluie de l'inattendu. Certains donnent à l'inattendu le nom de hasard ou de destin, et chacun sait qu'il peut prendre des visages tantôt joyeux et tantôt douloureux. Inévitable, l'inattendu est aussi désirable, car les routines et les habitudes nous sécurisent, nous reposent, certes, mais nous ennuient aussi, nous endorment, nous amollissent. L'inattendu est alors comme un piment, une épice dans la fadeur du quotidien, un pincement qui nous tire de notre somnolence face à la vie répétitive. L'inattendu est ainsi un besoin souvent vital dans la vie des groupes et surtout des couples.
Sur les mains, avaler des pommes de pin, Benoît, des abricots et des pois, et des lames de rasoir, étonne-moi.
Vous commencez bien l'année, Christophe.
Désirable, inévitable, l'inattendu est enfin favorable pour notre mental, car il nous contraint à la créativité, la flexibilité, l'ouverture, l'adaptation constante au changement de cap non planifié. Cette flexibilité a un coût, c'est le stress, ou parfois l'anxiété quand la pression de l'inattendu devient massive. C'est pourquoi il est inutile d'idéaliser l'inattendu, de le présenter comme un bien en soi. Beaucoup d'entreprises, dans leur jargon si particulier, ont ainsi valorisé depuis quelques années la vertu dite d'agilité. Il faut être agile, etc., etc. On se demande parfois si ça n'est pas pour mieux faire avaler aux salariés un certain nombre d'incohérences de management ou de mauvaises planifications. Mais c'est une autre histoire. Malgré toutes ces vertus, l'inattendu n'est pas supérieur à l'attendu. Les deux sont nécessaires à nos vies. Le dérangement de l'inattendu et le confort de l'attendu. Ce sont nos sociétés ultra-planificatrices qui tentent de raréfier, d'écarter l'inattendu, qui le rendent ainsi plaisant à nos yeux. Nos ancêtres, aux vies beaucoup plus incertaines et menaçantes que les nôtres, en avaient leur dose et étaient de ce fait moins friands que nous de l'imprévu, et moins friands que cet imprévu déboule dans leur quotidien, car ils prenaient souvent un visage douloureux. Et puis, une face sombre du goût pour l'inattendu, du moins lorsqu'il concerne des événements plaisants, c'est qu'il témoigne parfois de notre moderne incapacité à attendre, de notre addiction au divertissement, au changement, à la nouveauté, de notre besoin que tout nous arrive tout de suite. Alors, pour parfaire nos équilibres intérieurs, cultivons donc aussi peut-être une sagesse de l'attente, telle que la suggèrent les derniers mots du roman d'Alexandre Dumas, Le Comte de Monte-Cristo, attendre et espérer. Attendre et espérer, voilà qui pourrait être un beau programme pour l'incertaine année qui vient. S'attendre à l'inattendu, espérer qu'il ait un visage clément et surtout continuer de vivre et d'agir aussi joyeusement et énergiquement que possible.
Les choses vues de Christophe André et Philippe Gabillier qui a pris beaucoup de notes.
Absolument. Mais comme toujours quand Christophe parle, de toute façon. Et je trouve particulièrement pertinente cette idée de la non-idéalisation de l'inattendu. On peut pas non plus passer son temps. Quelqu'un qui va chercher la difficulté, c'est quelqu'un qui voudra toujours être dans l'inattendu, à la fois dans son rapport à lui ou à elle-même ou aux autres, devient donc quelqu'un qui est fondamentalement imprédictible vis-à-vis des autres. Et tout ça ne favorise pas obligatoirement une vie sociale équilibrée.
Voilà. Et vous pouvez podcaster Les choses vues de Christophe André sur l'appli France Inter. Dans quelques instants, nous verrons s'il est essentiel de sortir de sa zone de confort, chère à Marie-Laure Sunshine, pour laisser venir l'inattendu. En attendant, on écoute James Black, Coming Back.
So I'm coming back, coming back, coming back, coming back. Cause it hurts like the end of the world. And like betrayal, like betrayal.
Forget what I said, what I said, what I said, what I said. There's a mile between my heart and my head. So I take it all, take it all, take it all back.
You so down, so down, you bring me down. Don't you have a clue about where my mind is right now? You say you love me, is it real? Do you fantasize about the things you really wanna feel? I know you fantasize about the life you really wanna build. Know your eyes are watching God, baby, my eyes are hidden in the hills. Your first mistake was loving me when you know I wasn't ready. You put that shit down heavy, couldn't let you regret me. Memorize about the time we spent when you first met me. I put my shit down heavy.
You and it's real. I went in too soon for the kill, but I really wanna feel, and I think I wanna be. I couldn't let you reject me, I couldn't let you forget me. I wanted you to respect me, I wanted you to let me in. So I'm coming back till between my legs. Forget what I said.
James Black interprété Coming Back.
Grand bien vous fasse, Ali Rebbi, sur France Inter.
10h52, comment faire face à l'inattendu, c'est notre thème ce matin avec le professeur en psychologie Philippe Gabillier et la thérapeute Cécile Guéret. Écoutons Olivia, 41 ans, qui évoque sa zone de confort qui ne laissait pas de place à l'inattendu dans l'émission Ça commence aujourd'hui.
C'est-à-dire qu'on se retrouve à être dans la fameuse zone de confort, mais là du coup c'est une prison dorée. C'est-à-dire que vous faites au quart d'heure près les mêmes choses. Alors bien sûr, j'habitais qu'à un quart d'heure de mon travail, donc vraiment tout le monde me disait mais t'as les vacances scolaires, tu t'épanouis, tu vois du monde, t'es quelqu'un d'ouvert, entre guillemets, de quoi te plains-tu ? C'est-à-dire que moi qui ai un grain de folie, qui adorait le sport, alors je parle au passé parce que je m'étais interdit tout ça, par convention, par plein de choses, on n'a pas le temps, on n'a pas l'argent, on a autre chose à faire, il faut rentrer dans des cases. Et courant novembre 2017, j'apprends le décès de deux personnes.
De proche de vous ?
Une jeune femme plus jeune que moi, à l'époque 34 ans, et un homme de 40. Et foudroyant.
Une maladie ?
Bah oui, la première une maladie, le deuxième aussi, mais foudroyant en 4 jours. Il va à l'hôpital pour une raison et il n'en sort pas. Et là, j'étais au supermarché et c'est comme si j'avais pris en pleine face une hyperconscience du côté éphémère de la vie. Comme quoi l'allumette peut se craquer à tout moment.
Extrait de l'émission Ça commence aujourd'hui sur France 2 en février 2021. Philippe Gabillier, vous nous invitez à sortir de notre zone de confort comme Olivia, là, qu'on vient d'entendre.
J'invite à sortir de la zone de confort dès l'instant où elle devient confortable, en fait, voilà. Parce que la zone de confort est...
Ça veut dire quoi exactement, zone de confort?
En gros, enfin, moi, de mon point de vue, c'est une zone dans laquelle on a appris, je dirais, à vivre de façon, je dirais, assez, comme son nom l'indique, confortable. C'est une zone généralement connue, il y a du connu. Je connais les règles, je connais les points de repère, je crois que je contrôle. Et puis, globalement, c'est rarement révolutionnaire, une zone de confort, donc c'est aussi assez, il y a de la conformité. Mais il arrive effectivement que cette zone de confort devienne, d'ailleurs, c'est pas là, dans l'exemple qui est donné, c'est très brutal, mais parfois c'est beaucoup plus lent que ça devient brutalement une zone inconfortable parce que on prend conscience de la routine, la frustration, tout d'un coup ce qu'on ne peut pas faire ou ce qu'on ne fait plus prend plus de poids que ce qu'on fait même si ça nous plaît et les choses commencent à bouger de cette façon-là.
Cécile Guéret.
Oui, je trouve ça très intéressant aussi le lien que fait Olivia dans son témoignage sur le lien entre cette routine et la finitude, la conscience de finitude qu'on a tous en tant qu'être humain mortel, parce que souvent il peut y avoir derrière ce besoin de certitude, de routine, de régulier, de familier, un peu une immobilité qui est rassurante, comme si le temps ne passait pas, qu'on le contrôlait, Alors, ce que dit Irving Yalom, le psychiatre américain existentiel, il explique que c'est justement en se plongeant pleinement dans la vie et dans la possibilité de l'inattendu qu'on apaise cette angoisse existentielle en étant pleinement vivant.
Marie-Laure Zonshine, de Femme Actuelle.
Oui, en début d'émission, on parlait du cygne noir. Alors, je me propose de parler d'un autre animal à plumes, c'est l'autruche. Vous en parlez dans votre ouvrage en disant que c'est vraiment l'attitude face à l'inattendu qu'il faut essayer vraiment d'éviter, parce que procrastiner, refuser l'évidence, nier les faits, on n'y arrivera pas.
Non, effectivement, c'est probablement l'attitude qui, vis-à-vis de l'inattendu en tout cas, est la seule attitude qui peut être souvent dysfonctionnelle, surtout voilà, parce qu'en plus, ça fait perdre du temps. Il y a aussi cette idée que voilà, on vit, c'est la notion de finitude, on vit dans un univers temporel qui est fini. Alors, bon, Woody Allen disait, j'ai bien l'intention de vivre éternellement et jusqu'à présent tout se passe comme prévu, mais globalement, et donc cette notion d'autruche, elle dit, voilà, il y a des choses que je ne veux pas les voir, je ne me donne pas le droit de les regarder, et donc ne me donnant pas le droit de les regarder, je suis en train de laisser passer probablement un certain nombre de choses, et je crois que je suis dans une zone de confort, alors que je suis que dans une zone de cécité.
Marie-Laure Zonshine, pour la zone de confort,
pour
justement.
Pour mettre un premier pied dehors cette zone. Parce que vous parliez de l'expérience tout à l'heure, mais enfin, elle n'est pas à la portée de tout le monde non plus. On n'a pas forcément ce recul sur soi.
Alors,
pour
je vais vous dire, je pense qu'au départ, c'est pas de l'ordre de la pensée, c'est de l'ordre du ressenti. Moi, je pense que là, c'est comme un vêtement ou une chaussure qui n'est pas exactement à la taille ou un vêtement. Beaucoup de gens vous diront, il y a des petits quelque chose qui, dans leur vie quotidienne, dit oui, mais je suis très heureux, j'ai une famille formidable, mes enfants, je les adore, mon épouse ou mon mari, c'est merveilleux, j'ai des amis. Néanmoins,
il y a une étiquette qui gratte dans le dos.
Ouais, il y a un truc qui gratte. Et tant qu'on n'a pas réussi à mettre des mots, alors soit on le met par soi-même, soit on fait appel à un tiers, mais tant qu'on n'a pas mis des mots sur ça, on ne peut même pas commencer à envisager le fait d'en sortir.
Christophe André, hors antenne, vous évoquiez des petits exercices assez rigolos à faire pour justement sortir de sa zone de confort, mettre l'inattendu au menu de sa vie de tous les jours.
Oui, c'est des exercices qu'on propose volontiers aux patients qui ont une anxiété généralisée, qui est une forme d'allergie à l'incertitude, à l'inattendu, qui leur semble porteur de danger. Et on leur prescrit, par exemple, de partir à l'aventure, de partir en week-end, comme ça, en couple, sans avoir réservé, sans trop savoir où ils vont et de voir ce que ça donne. Et parfois ça se passe bien, parfois ça se passe mal. Mais l'idée, c'est qu'on survit toujours à ces histoires-là. Ou d'inviter plein de copains sans rien avoir préparé à dîner, faire semblant d'avoir oublié. Donc on commande des pizzas, on fait des pâtes et on s'aperçoit que l'important, c'est pas ce qu'on a dans l'assiette, mais ce sont les amis, la rencontre, la joie qui va sortir de cet inattendu et de cet imprévu.
Pour terminer, l'une des voies du bonheur, c'est de faire de la place à l'inattendu, Philippe Gabillier.
C'est difficile de répondre à cette question en philosophe, mais si je voulais raisonner en psychologue, je dirais qu'en tout cas, ne laisser aucune place à l'inattendu dans sa vie, c'est se condamner au malheur.
Cécile Guéret.
Oui, effectivement, ce serait peut-être en tout cas le chemin vers le bonheur, en tout cas le chemin du bonheur, ce serait de faire peut-être des petits pas aussi pour répondre à la question de comment on fait. Moi, je crois beaucoup aux petits pas, c'est vraiment aux petites choses, comme on peut mettre un petit peu d'inattendu. Comme vous disiez à l'instant, Christophe André, ce week-end d'exposition, ben là c'est un week-end, mais ça peut être aussi des petits pas qu'on fait petit à petit.
Merci beaucoup Cécile Guéret. Aimer, c'est prendre le risque de la surprise, c'est publié chez Albin Michel. Merci beaucoup Philippe Gabillier, Éloge de l'inattendu, c'est publié chez Saint-Simon. Merci Marie-Laure Zonshine et Christophe André, les tic et tac du mardi. Demain, nous verrons comment être un parent ou un grand-parent d'adolescent absolument parfait. Toutes vos questions dès maintenant sur l'appli France Inter et Marie-Laure Zonshine qui lève les yeux au ciel.
Qu'est-ce qu'un ado parfait ? C'est un oxymore, ça.
Ouais. Bah écoutez, vous pouvez appeler le standard demain.